Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Angela. Je suis professeure à la Dante Alighieri et je suis sicilienne. Je viens de Catane, donc c'est une ville qui se trouve sur la côte orientale. Alors, c'est la première fois depuis que je suis en France que je fais une conférence en français. Donc, soyez indulgents avec moi. Alors, je vais commencer par des lignes générales de la Sicile et puis je vais me concentrer sur la côte orientale. Alors, je commence par le drapeau de la Sicile qui s'appelle la Trinacria. Parce que la Trinacria, c'est l'ancien nom de la Sicile donné par les Grecs. Et Trinacria en grec, ça veut dire trois pointes. Donc, vous voyez au milieu, il y a la Gorgone appelée Méduse qui a trois jambes qui indiquent les trois pointes. Donc, le nord, l'ouest, l'est et le sud. Alors, il y a une différence quand même avec Méduse. Méduse avait des serpents sur la tête. Et bien là, la Gorgone a des épis de blé. Parce que ça rappelle la fertilité de la terre et les champs de blé en Sicile. Que vous pouvez remarquer aussi par la couleur du drapeau, donc qui indique les champs de blé. Et puis, vous voyez une autre couleur, le rouge. Le rouge, c'est le sang versé par les Siciliens pendant les vêpres siciliennes. Et donc, en fait, la première fois où le drapeau a été utilisé, c'était en 1282, donc lors des vêpres siciliennes. Alors, quelques chiffres. Donc, la Sicile compte 5 millions d'habitants environ. Elle est subdivisée en 9 provinces, donc Trapani, Palerme, Agrigente, Caltanissetta, Enna, Messine, Catane, Syracuse et Raguse. Donc au territoire sicilien, il y a aussi les îles. Donc ils appartiennent aussi à la région. Les îles éoliennes, les îles qui sont côté ouest et les îles au sud, dont Lampedusa, que tout le monde connaît. Oui, malheureusement. Alors, la Sicile est baignée au nord par la mer Tyrrhénienne, à l'est par la mer Ionienne et au sud par la mer Méditerranée. Et donc, tout au nord, vous trouvez les îles éoliennes, Alicudi, Filicudi, Salina, Lipari, Vulcano et Stromboli. Et ils ont une forme d'une Y. Parmi les îles éoliennes, il y a deux volcans, Stromboli et Vulcano. Donc, c'est l'activité volcanique des deux volcans, c'est assez différente. Parce que le Stromboli se caractérise par l'émission de fontaines de lapilli et de bombes volcaniques. Tandis que Vulcano se caractérise par des cheminées fumantes, des fumerolles. Et donc le plus haut volcan actif d'Europe, c'est l'Etna, qui donc s'élève à 3343 mètres. Et donc compte 100 éruptions au cours du XXe siècle. L'Etna donc se caractérise par des coulées de lave qui atteignent parfois la mer et ces coulées de lave ont parfois détruit la ville de Catane qui se trouve juste au pied du volcan. Ça fait drôle de sentir ma voix dans l'entendre. Alors la Sicile ne présente pas de fleuves très importants. Il y a le Simeto et l'Alcantara. Alors, l'Alcantara donc, coule sur les flancs de l'Etna et se fraye un chemin dans des gorges spectaculaires. Donc, ce sont les gorges de l'Alcantara. C'est beau, hein? Alors, les gorges sont étroites de 2 à 5 mètres de large avec des parois qui atteignent 25 mètres. Alors, quelle est la particularité de ces gorges? C'est la formation. Puisque c'est probablement un séisme qui aurait brisé en deux une vieille coulée de lave descendue de l'Etna, permettant ainsi au fleuve de s'insinuer. Et donc ces gorges se trouvent à 17 km de Taormine. La vallée de l'Alcantara est un parc naturel où on peut pratiquer de la randonnée. Et c'est aussi une zone très touristique, on peut se baigner. Mais l'eau est très très froide. Bon, vous êtes habitué avec la Bretagne, 16 degrés, je pense que vous ne risquez rien de grave. Mais pour nous, les Siciliens, disons qu'on réfléchit quand même pour y aller. Moi, je m'en souviens, j'étais adolescente, j'ai un très mauvais souvenir de tellement l'eau était froide. Alors, comment on peut accéder dans la gorge? Avec un ascenseur ou avec un sentier panoramique? Alors, un peu d'histoire. Alors, l'histoire en Sicile est très très longue. Donc, je me suis arrêtée aux époques les plus importantes pour notre patrimoine. Donc, l'époque grecque. En effet, avec la colonisation grecque, la Sicile rentre dans l'histoire de la Méditerranée avec la fondation de Naxos, qui existe encore aujourd'hui et qui est à proximité de Taormina. Ça s'appelle Giardini Naxos, mais ça vient de là. Et donc, Naxos, Catane, Syracuse sont tous des ports qui se trouvent le long des routes commerciales. Et donc, les Grecs ont fondé en Sicile des villes comme en Grèce, les polices. Et pendant cette période, la Sicile vit une période de prospérité. Donc, les témoignages de cette époque, le temple d'Apollon à Syracuse, les temples à Ségeste et la vallée des temples à Agrigente que tout le monde connaît. Pareil, la vallée des temples à Agrigente, il ne faut pas la faire en août comme moi, le 24 août, 40 degrés, à midi. Il faut éviter. Donc, après la chute de Syracuse, la Sicile devient une province romaine et très importante pour la culture des céréales. Et voilà un témoignage, le théâtre gréco-romain de Taormine. Même si son plan et sa disposition sont plutôt d'influence grecque, ce théâtre date de l'époque romaine. Et donc peut accueillir 5400 personnes. Et l'actuelle structure a été construite sur les fondations d'un autre théâtre. Alors ce théâtre est vraiment magnifique. Et aujourd'hui, il est utilisé pour des spectacles. Donc, par exemple, des spectacles d'opéra. Moi, j'ai pu assister à deux opéras et c'était magnifique. Il y avait les étoiles, la mer, on était dans un contexte historique. Vraiment, c'est merveilleux. Donc, si vous avez la possibilité, allez-y et assistez à des spectacles. C'est super. Alors, après les Romains, donc on a eu les Byzantins, d'abord, qui sont restés 3 siècles. Et après, donc, les musulmans ont envahi la Sicile à Palerme. Ils sont arrivés tout de suite à Palerme. Et donc, on voit les cupoles rouges à San Giovanni degli Eremiti à Palerme. Et les musulmans, une fois chassés, ont été chassés par les Normands. Et en 1130, Roger II d'Hauteville fut couronné roi de Sicile. Et donc, vous voyez le palais des Normands à Palerme. Vous voyez, je ne parle pas que du côté de la côte orientale. Voilà. Il y a d'autres témoignages importants en Sicile. Alors, donc, j'arrive à la côte orientale, qui est quand même très bien par rapport à la côte ouest. Alors, le baroque sicilien. Pourquoi le baroque sicilien se trouve sûrement sur la côte orientale et on ne le retrouve pas sur la côte ouest? Parce que c'est à cause d'un tremblement de terre en 1693 qui a détruit beaucoup de villes sur la côte. Et donc, à cause de ce tremblement de terre, des jeunes architectes siciliens qui étaient formés à Rome ont créé un nouveau style architectural, le baroque tardif au baroque sicilien. Alors, les architectes les plus importants, Giovanni Battista Vaccarini, on va le trouver plus tard, Rosario Gagliardi, Stefano Ittar. Donc, les villes qui ont été reconstruites font partie de la vallée de Noto, qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, 3 villes qui symbolisent ce style architectural, Noto, Syracuse et Catane. Alors, je vais commencer par Syracuse, je passerai à Noto et je termine par ma chère ville. Alors, Syracuse. Alors, comme je vous ai dit, elle était fondée par les colons grecs. Cicéron l'a présentée comme la plus grande et la plus belle des villes grecques. Et on accède au centre historique par la petite île Ortygie. Donc à Ortygie, on retrouve les influences des époques grecques, normandes, etc. Et on peut noter aussi les restes du temple d'Apollon, que je vous ai montré tout à l'heure, et aussi la fontaine Arétuse. Alors la fontaine, c'est une source d'eau douce qui, dans l'Antiquité, alimentait en grande partie la ville en eau potable. Et autour de cette fontaine, il y a bien sûr une légende. Donc c'est le dieu du fleuve Alphée qui tombe amoureux de la nymphe Arétuse, qui ne veut pas Alphée et qui n'est pas amoureuse de lui, et donc demande à la déesse Artémis de la transformer. Et donc elle a été transformée en source. Mais Alphée veut quand même Arétuse, donc réussit à la rattraper et il se mêle avec les eaux d'Arétuse. C'est triste. Voilà. Le palais du Sénat, donc est appelé aussi le palais Vermexio, puisque l'architecte c'est Giovanni Vermexio. Et donc la façade présente des pilastres ioniques et des fenêtres avec des niches. Les niches devaient contenir les statues des rois d'Espagne. La cathédrale de Syracuse, à l'origine, est un temple dorique grec. Bon, c'est bon, on peut le voir. Alors, le théâtre grec de Syracuse est un édifice taillé dans le roc aux alentours du 1er-3e siècle et il est situé dans le parc archéologique de Néapolis. Il a une capacité de 20 000 spectateurs et durant l'Antiquité se déroulaient des combats de fauves et de gladiateurs. Alors, les latomies sont des prisons naturelles où les Athéniens ont été enfermés et aussi les chrétiens sous l'Empire romain. Et pour finir, donc l'oreille de Denis, c'est une grotte artificielle qui se trouve à côté du théâtre grec et c'est un artiste auquel on doit son nom, et c'est Caravage, qui donc va à Syracuse en 1608 et par la forme de la grotte, nous fait penser à une oreille, et aussi par le tyran Denis l'Ancien. Selon la tradition, le tyran a emprisonné dans cette latomie des ennemis et grâce aux propriétés acoustiques du lieu, pouvait écouter les conversations de ses ennemis et leurs secrets. Et donc, c'est grâce à la tradition et grâce à la forme qu'on doit le nom de cette grotte. Alors, je passe à la ville de Nantes, qui est une ville incontournable du baroque de Sicile. Alors, Nantes a été détruite pendant le tremblement de terre, et quand Nantes antique a été détruite, en fait, ils ont reconstruit la nouvelle ville à 15 km de l'ancienne. Donc, ils n'ont pas reconstruit sur ses ruines. Et donc on arrive au centre par la porte royale qui a été construite pour commémorer la visite de Ferdinand II en 1838. Une fois passé la porte, on arrive sur la rue Corso Vittorio Emanuele III et c'est là où on peut admirer la cathédrale de San Nicolo. Alors, la villa romaine du Casal se trouve à 5 km au sud de Piazza Armerina. Sa construction a débuté à la fin du 3e siècle. Elle était occupée jusqu'à 1160. Elle a été ravagée par un incendie. Elle a disparu sous un glissement de terrain. Elle a été redécouverte en 1812 et la villa a été fouillée à partir de 1929. Et fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Donc j'ai mis un plan de la villa. Donc vous voyez la basilica, les appartements du nord, les appartements du sud, le couloir de la grande chasse, le péristyle quadrangulaire, et puis jusqu'au terme où vous trouvez frigidarium et tepidarium. Alors, mais quelle est la particularité de cette villa? Bah, les 3500 mètres carrés de mosaïques. L'UNESCO a considéré ces mosaïques comme les plus belles dans tout le monde romain, par leur qualité artistique, leur inventivité et leur étendue. Alors, en quoi consistent les mosaïques? Donc, il y a plusieurs sujets. Il y a des sujets amoureux ou plus, ça dépend du point de vue. Il y a des têtes d'animaux, des épisodes mythologiques, des scènes de chasse. Il y a des groupes de personnages qui participent à une activité, donc là par exemple le jeu de balle, des femmes sportives. Et la mosaïque la plus connue, c'est les jeunes femmes en bikini. Vous êtes d'accord? C'est la plus connue. Alors, Caltagirone. Caltagirone se trouve en province de Catane. Et son nom provient de l'arabe et signifie la colline des vases. Des vases. Alors, pareil, elle a été détruite pendant le tremblement de terre. Et voici donc une reconstruction, la cathédrale San Giuliano, donc en style, en parfait style baroque, à l'extérieur et à l'intérieur. Mais Caltagirone a quand même une spécialité particulière, et c'est la céramique. En effet, la principale attraction de la ville n'est pas la cathédrale, et l'escalier Santa Maria del Monte, qui compte 142 marches. Ah ça, pour les faire, moi j'étais petite, hein, mais je m'en souviens encore. Je ne l'ai plus refait depuis. Mais vous devez le faire. Si vous allez, ah oui, 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 il faut monter. Donc, l'escalier a été construit en 1608 et chacune de ces contre-marches est décorée avec différentes céramiques faites à la main. Et une fois par an, à la fête du saint patron de la ville qui est Saint-Jacques, donc la fête c'est le 25 juillet, l'escalier est éclairé avec des bougies de diverses couleurs disposées de manière à former un grand dessin artistique. C'est très très beau. C'est très connu la céramique de Caltagirone partout en Sicile. Alors, Ragusa. La ville est divisée en deux parties. Il y a la ville haute, qui est Ragusa Nuova, et la ville basse, Ragusa Ibla. Donc, vous voyez là, la vue c'est de la ville haute vers la ville basse. Alors donc, bien sûr, Ragusa a été restructurée après le tremblement de terre, mais Ragusa Ibla a conservé un côté mi-médiéval, mi-baroque, donc il la rend particulière. Et c'est à Ragusa Ibla où se trouve la cathédrale San Giorgio. Donc, elle se caractérise par ses marches qui attirent donc notre regard vers le haut et vers la façade rose. Et l'édifice a été construit par Rosario Gagliardi. C'est un des architectes dont je vous ai parlé tout à l'heure quand je vous expliquais le baroque sicilien. C'est un des architectes les plus importants. Alors, une autre ville, c'est Modica. Modica se trouve en province de Raguse. Donc, elle a été restructurée, reconstruite après le tremblement de terre. Donc, la cathédrale San Giorgio a été achevée en 1818. Donc, vous voyez que c'est un édifice très élégant. Ben, 1700, il y a eu le tremblement de terre. Donc l'architecte est le même, Rosario Gagliardi. Et donc je vous disais, c'est la façade est très élégante et théâtrale. Donc présente 3 niveaux et 5 nefs à l'intérieur. Mais à Modica, il y a aussi une autre spécialité. Et ça, ça vous plaît plus peut-être que la céramique. Le chocolat. Alors, cette fabrication artisanale du chocolat remonte à la domination espagnole en Sicile. puisque c'était les Espagnols qui revenaient du Nouveau Monde qui ont amené la fabrication du chocolat. C'est une fabrication particulière, il s'agit d'une fabrication à froid. Et puis la masse de cacao est obtenue à travers une cuisson à 40 degrés avec l'ajout de sucre semoule, donc qui, à cause de la basse température, ne font que partiellement. Et donc on fait au chocolat une consistance granuleuse. Et le chocolat de Modica fait partie des produits à appellation IGP. Donc si vous avez l'occasion, vous allez à Modica. C'est obligé. Donc vous l'avez en tablette et en crème aussi. Bah, ma mère me raconte qu'enceinte, elle a quand même amené mon père de Catane à Modica, il y a quand même un peu de chemin, juste pour manger du chocolat. Donc vous imaginez le pouvoir de ce chocolat. Alors, pour finir, la cerise sur le gâteau. Ma ville, ma Catane, qui se trouve au pied du volcan de l'Etna, et c'est la deuxième ville la plus peuplée de l'île. Donc il y a Palerme et puis il y a Catane. Il y a quand même une grosse rivalité entre les deux villes. Je vous le dis, mais... Alors... Donc je vous montre les éléments les plus importants de la ville de Catane. Donc ça, c'est le centre historique, donc c'est la place du Dôme. Et donc à la place, donc, vous trouvez la cathédrale de Sainte Agathe. Vous voyez, la façade est un peu différente par rapport à la façade de Nantes ou de Syracuse. Parfois, les gens sont surpris et sont déçus parce qu'ils s'attendent de voir la même chose qu'on a vu à Nantes et à Syracuse, la même couleur. Et non, c'est du baroque aussi. Mais le changement est dû aux matériaux utilisés. Donc ce sont des matériaux d'origine volcanique dérivés de la lave. Voilà pourquoi la couleur est plus foncée. Et donc la cathédrale a été donc reconstruite après le tremblement de terre, mais plusieurs styles architecturaux se sont superposés. Et la façade, l'œuvre de Giovanni Battista Vaccarini, qui est donc l'architecte qui a, disons, le plus reconstruit à Catane. Donc on le verra sur plusieurs bâtiments. Alors la cathédrale donc, de Sainte Agathe, qui est juste à côté, c'est la patronne de la ville. Pourquoi? Parce que le 5 février 251, c'est la mort de Sainte Agathe. Et en 252, il y a eu une grosse éruption. La lave est rentrée dans la ville de Catane. Donc les Catanais ne savaient plus quoi faire. Alors ils décident de poser sur la lave le voile de Sainte Agathe. C'est une légende ou pas, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, une fois le voile posé, la lave a cessé de continuer. Ça veut dire que Sainte Agathe a sauvé les Catanais. Donc, elle est devenue notre patronne. Alors, les reliques de Sainte Agathe et le voile sont à l'intérieur de l'église. Oui. Et le buste de Sainte Agathe est dans la cathédrale. Il y a une chapelle et elle se trouve, il y a 7 portes avant d'arriver à elle. Parce qu'une fois, oui, ils ont décidé de nous voler la patronne. Et donc, on a mis 7 portes avant de pouvoir accéder à son buste. Donc, à l'intérieur de la cathédrale, il y a aussi les sarcophages de la reine Constance et les dépouilles de Vincenzo Bellini, notre cher compositeur d'opéra et catanais. Et donc la ville lui a consacré plusieurs statues, des jardins, le théâtre s'appelle le théâtre Vincenzo Bellini. Et donc à l'intérieur on trouve aussi ses dépouilles. Le troisième élément, c'est la fontaine de l'éléphant. Donc elle a été construite par Giovanni Battista Vaccarini entre 1735 et 1737. C'est une statue de basalte qui représente un éléphant noir, qui est appelé Ulioto en sicilien. et il est devenu l'emblème de la ville. Alors, sur le dos de l'animal se trouve un obélisque de 3 mètres environ, en granit, qui est décoré avec des figures de style égyptien. Donc, autour de cet éléphant, il y a aussi des légendes qui racontent l'histoire d'un éléphant qui a chassé des animaux sauvages au cours de la fondation de Catane par les Grecs. Et aussi, sous la domination arabe, la ville est appelée la ville de l'éléphant. Il y a toujours des légendes. Alors, mais le baroque à Catane ne s'arrête pas à la place. Il y a une rue qui s'appelle la Via Crociferi. Et c'est une ville ornée de nombreux édifices baroques, dont les églises de Saint-Benoît et de Saint-François. Donc, je ne vous ai pas mis de photos parce qu'il s'agit de deux églises, mais c'est une ville en parfait style baroque, il faut absolument y aller. En remontant cette rue, on arrive dans un autre bâtiment, le monastère des Bénédictins. Donc, qui fut restructuré après le tremblement de terre par les meilleurs architectes, dont Vaccarini, irénien. Le monastère présente une façade divisée par des pilastres et comporte des riches corniches aux fenêtres. À l'intérieur, il y a des restes d'édifices de la période gréco-romaine, d'édifices médiévaux et une tombe préhistorique. Alors, il était utilisé pour plusieurs fonctions, casernes militaires, hôpital. Et aujourd'hui, il abrite la faculté de lettres philosophie et de langue étrangère. Et c'est là où j'ai fait mes études. C'est très très beau. Aujourd'hui, j'ai dit, ah c'est beau, c'est... Bon, à l'époque, je ne l'aimais pas tellement. C'était pas un endroit où je disais, oh regarde, il y a des corniches. Il y a... Non. Surtout à 8h du matin, quand on avait cours. Et quand on passait toute la journée, non plus. Alors, une photo de l'intérieur. Donc, vous pouvez voir l'escalier double décoré de bas-reliefs. Et à l'intérieur, il y a aussi une salle du réfectoire qui est appelée Aula Magna. Et c'est là où il y a les cérémonies les plus importantes, dont par exemple le jury pour la fin des études. On passe en mémoire, on présente en mémoire, il y a un jury, et donc voilà, c'est une Aula Magna, des conférences très importantes. Et à l'intérieur, il y a aussi une bibliothèque avec la salle Vaccarini, bien sûr, son architecte quand même, éclairée par des grandes fenêtres et dotée de pavements en faïence napolitaine du XVIIIe siècle. C'est pas mal. Côté folklorique de la Sicile, mais à mon avis, c'est une étape importante. C'est le marché aux poissons, donc il y en a deux en Sicile, les plus grands, il y en a un à Palerme et un à Catane. C'est un endroit, moi j'aime beaucoup le marché aux poissons, j'aime beaucoup y aller, parce que c'est là où vous pouvez trouver les gens locaux, où vous trouvez vraiment les Catanais. Bon, il y a beaucoup de touristes, voilà, mais vous trouvez vraiment les gens de la ville. Vous entendez le dialecte, parce qu'on parle presque que le dialecte, et c'est très bruyant, donc si vous n'aimez pas le bruit, c'est pas la peine. Mais les marchés en Sicile sont comme ça. On crie, on parle fort parce qu'on veut vendre la marchandise. Donc il faut attirer les gens et donc on crie dans tous les sens. On les arrête presque, on les touche, on dit arrête. Arrête, prends mon poisson, achète. Donc c'est convivial en même temps. Moi je me sens bien quand j'y vais. Voilà, donc à mon avis il faut y aller. Et c'est juste derrière la fontaine de l'éléphant, c'est juste à côté. Donc il ne faut pas faire un chemin particulier, c'est juste à côté. Bon, je vous ai mis cette photo parce que c'est l'espadon et le thon. Et ce sont les deux poissons pêchés sur le détroit de Messine. Donc c'est ce que mange le plus. Donc si vous avez l'occasion, allez-y. Alors, quelques produits de la côte orientale, la ricotta, La ricotta che utilisate per la pâtisserie siciliana, dans les cannoli, la cassata. Ah là, il y a beaucoup de gâteaux de pâtisserie qui sont faits avec la ricotta. À côté, les tomates cerises de Pacchino, qui se trouvent en province de Syracuse. La pistache de Bronte, une petite ville au pied du volcan. Les figues de Barbarie, vous en trouvez partout, partout sur la côte orientale. Et la ricotta salata, c'est un fromage, c'est la ricotta sèche et affinée qu'on râpe sur les pâtes. Oui, on fait des... Par exemple, le plus connu, c'est les pâtes à la norma, dont c'est l'opéra de Vincenzo Bellini. Et en fait, c'est des pâtes à la sauce tomate avec des aubergines et puis on râpe la ricotta salata. Comment oublier les vins? Pas possible. Alors, il fuoco dell'Etna. Le nom l'annonce déjà. C'est le feu de l'Etna. C'est une liqueur. C'est sucré, mais c'est assez puissante. Je ne sais pas combien de degrés, mais assez puissante. Nero d'Avola, que tout le monde connaît, et ben ça vient de la ville d'Avola, qui se trouve en province de Syracuse, donc sur la côte orientale. Et puis, en vin blanc, c'est Donna Fugata. Donna Fugata, c'est un château qui se trouve en province de Raguse.
Dans le film, dans le film.
Gattopardo, le guépard.
Toute la famille se dirigeait à Donna Fugata.
Voilà. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. J'espère de vous avoir donné envie de visiter la côte orientale. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, malgré mon accent. Et bon voyage en Sicile, si vous allez.